l'espoir, c'est d'abord le chemin que l'on parcourt. On a lancé en 2011 un programme qui s'appelle Devenons artisans de la non-violence et qui est en train de voir pousser cette forêt dont je parle. Près de 50 000 personnes qui ont partagé la boussole de la non-violence au moins 2 heures. Certains une journée, 2 journées de formation, 3 journées, d'autres dont ça devient le métier aujourd'hui, dans le milieu de l'éducation, du sport, de l'entreprise. Aujourd'hui, l'École normale supérieure de Paris qui organise 3 jours sur la non-violence au mois de novembre, des clubs de football qui s'intéressent et qui intègrent ces formations pour leurs jeunes, l'IUT de Saint-Denis dans le 93 à Paris qui propose ses enseignements, l'université de Neuchâtel qui l'an dernier a organisé une journée entière dédiée à la non-violence. Donc tous les jours, cette boussole-là, elle trouve un écho retentissant dans une société où la violence est banalisée, sacralisée, et où on dit souvent priorité violence ou alors résignation, s'écraser. Et la non-violence, elle vient nous apporter autre chose. Une boussole, non pas pour apprendre à être sage, mais pour apprendre à être debout, pour apprendre à résister à l'injustice aussi quand il s'agit de non-violence active dans le domaine plus sociétal, quoi. Donc c'est voir comment, avec ce travail d'ensemencement qu'on a commencé, moi j'ai fait près de 450 conférences, vous imaginez, les demandes ne cessent d'affluer de toute la France. En Suisse également, là je passe une semaine. Voilà, et notre fondation Oumani qui travaille là-dessus, et avec des formateurs, des formatrices. Bref, c'est mettre sur la place publique une illustre inconnue et surtout la mettre à disposition de tous et de chacun.
Quand on vous dit que la non-violence est une utopie, vous n'aimez pas ça?
C'est pas que je n'aime pas, c'est qu'aujourd'hui les réalités et les études les plus sérieuses prouvent le contraire. Je vous invite à découvrir un livre de Erika Chenoweth, qui est une grande universitaire. Ils ont fait une étude sur tous les conflits dans le monde depuis 1900 et elles font la preuve, elles apportent la preuve que quand on utilise la violence, on le perd 2 fois plus. Quand on utilise la non-violence, on gagne 2 fois plus face à l'injustice. Donc l'utopie, c'est pas la non-violence. L'utopie, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça, sans rien changer. Mes rafales, tes drones, ma guerre, la tienne, etc. Œil pour œil, disait Gandhi, on va finir aveugle. Et ce degré de violence ne cesse d'augmenter dans le monde, non seulement sur les champs des guerres qu'il y a dans le monde, mais aussi dans les salles à manger, dans les cours d'école, dans les comportements de tous les jours, sur les réseaux. Et nous finissons par nous habituer, nous acclimater à quelque chose qui est profondément contre notre nature. Car ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les neurosciences le prouvent, la violence n'est pas notre nature. La violence est une violation de notre nature. Et c'est bien ça qui provoque tant de souffrances de par le monde.
Il n'y a pas une violence quand même un petit peu naturelle chez l'homme, que ce soit déjà dans le caractère, tout simplement, quand quelque chose ne nous convient pas. On a peut-être une violence naturelle qui vient en nous, non?
Ce n'est pas forcément une violence, parce que la violence n'est pas négative en soi. Il y a une énergie, il y a une colère, il y a une indignation. La question, c'est toujours, qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Je suis en colère, j'ai plein de raisons d'être en colère. Alors bien sûr, si je ne suis équipé que du marteau, je tape avec le marteau. Si je ne connais que la violence, je tape avec la violence. Mais le jour où j'apprends que je peux être beaucoup plus efficace, beaucoup plus fort, que je peux m'éviter de rentrer dans cette spirale et dans cet engrenage infernal dans lequel m'invite la violence, alors là, mais si je ne connais que le marteau, effectivement, soit je m'écrase, soit j'use le marteau. Eh bien, l'homme, il a cette énergie. Il ne s'agit pas de refouler la violence. Il s'agit de la recycler, de la transformer. Elle n'est pas efficace. Elle nous invite à entrer dans des spirales et des engrenages qui sont mortifères et dont les conséquences sont pour moi et pour les autres mortifères. Et on le voit bien au niveau de la société. Mais n'oubliez pas non plus que la violence est un marché sacrément bien organisé. Dans les écrans, dans la culture que l'on diffuse, dans les armes que l'on vend, que l'on fabrique, dans les conflits, etc. C'est un marché parfaitement organisé. Bien aujourd'hui, il est temps que nous soyons à la hauteur de la nature humaine qui est beaucoup plus non-violente que violente. Et les neurosciences le prouvent et l'attestent aujourd'hui. Nous sommes des êtres de compassion, d'empathie. Mais on peut éteindre notre empathie, on peut éteindre notre compassion. Ne pense qu'à toi, à la compétition, la rivalité, fais-toi respecter, frappe le premier, te laisse pas faire. Et toute cette logistique-là nous amène à vivre dans une société où on se comporte un peu en crocodile, dans les mots qu'on utilise. La non-violence est une sorte de vaccin. Il y a une malbouffe pour le corps, il y a aussi une malbouffe pour l'esprit et pour les consciences. Il s'agit d'en être conscient, de dire « mais j'ai vraiment envie de me libérer de cet enfer-là ». Et la non-violence, elle nous offre cette possibilité.
Évidemment, la violence a de multiples facettes. Là, vous êtes en Suisse, on est un pays neutre, qui ne connaissons plus la guerre depuis 1847. Est-ce que vous êtes au bon endroit pour prêcher la non-violence, finalement?
Ben justement, partout, la non-violence est à sa place. Est à sa place parce que aujourd'hui la violence elle a changé de forme, si vous voulez. On nous dit que la violence a reculé dans le monde. Effectivement, il y a eu des siècles où le nombre de morts a été beaucoup plus violent, si on ne compte que le nombre de morts. Mais aujourd'hui, la violence est beaucoup plus insidieuse. La violence, c'est le prof qui ne peut plus faire cours, c'est l'élève qui est harcelé, c'est l'individu qui est au chômage, C'est le jeune qui est addict avec des jeux d'écran. C'est la personne qui est alcoolique. C'est la précarité. C'est la violence des images. Je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, etc., etc. C'est le burn-out, c'est le stress. L'être humain n'est pas fait pour subir les taux de stress qu'il subit aujourd'hui. J'ai pas fait le chiffre, j'y arriverai pas, etc., etc. Donc ces formes de violence insidieuses aujourd'hui, elles sont des violences. Simone Veil disait, la pire des violences, c'est celle dont on ne meurt pas. Celle dont on meurt, on peut la compter, on peut la comptabiliser. On compte le nombre de morts. Mais aujourd'hui, elle s'est recyclée dans d'autres domaines beaucoup plus insidieux. Savez-vous, par exemple, qu'en France, je ne connais pas les chiffres de la Suisse, il y a 220 000 tentatives de suicide par an, une toutes les 5 secondes. D'où vient toute cette souffrance? Nous sommes les premiers consommateurs de produits anxiolytiques. D'où vient toute cette souffrance? Pourquoi nous avons ce besoin-là? Qu'est-ce qui appelle? Quelle est la souffrance qui nourrit cet appel-là? Donc les violences sont beaucoup plus insidieuses. Et je suppose qu'en Suisse, bien sûr, une des vertus de la Suisse est cette neutralité, mais il y a d'autres formes de violences beaucoup plus insidieuses, des violences structurelles, des violences économiques, la précarité, la faim dans le monde, la violence écologique, les défis qui sont face à nous dans la planète. L'homme est extrêmement violent avec son environnement, avec la planète, avec les animaux, etc., etc., avec la nourriture, avec l'alimentation, qui est parfaitement l'homme, ce l'être vivant qui empoisonne sa nourriture, avec des conséquences désastreuses sur la santé publique. C'est tout ça qui sont des formes de violence insidieuses, mais pourtant tellement réelles et que nous subissons au quotidien.
Vous vous dépensez sans compter, vous avez parlé de plus de 450 conférences. Pour cette non-violence, vous vous sentez investi d'une mission?
Si on avait le sentiment de prêcher dans le désert, vous imaginez bien que... D'abord, j'étais loin d'imaginer en lançant ce programme en 2011, et nous étions loin d'imaginer avec la fondation de Corse Umani, que pas mal de Suisses soutiennent et on a besoin d'eux, d'imaginer les résultats et les échos que ça aurait. Ça répond à une urgence, à une famine, à une soif profonde dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est des enseignants qui ne peuvent plus enseigner, c'est des enfants qui sont harcelés. Et quand un enfant est harcelé dans une classe, il n'y a pas qu'un seul être qui souffre, c'est toute la classe qui souffre. C'est cela qu'il faut équiper. On nous dit mais des fois, mais ici, il n'y a pas de violence. Si, mais il y a d'autres formes. Dans ta vie, tu seras confronté au conflit. Dans la vie, ne fût-ce au moins pour tenter de renverser quelques-unes des injustices qui nous assaillent dans le monde. Donc, on a le sentiment que cette boussole-là qui, hier, n'était pas du tout sur la place publique, en particulier en France. Je vous signale qu'en France, il n'y a pas une seule chaire universitaire dédiée à la non-violence, alors qu'elle est enseignée à Harvard, à Oslo, à Cambridge, à Yale, à Boston, etc., à Madrid et ailleurs. Je ne sais pas en Suisse ce qu'il en est. En tout cas, je sais que des universités comme celle de Neuchâtel, par exemple, ont eu la force et l'audace de consacrer une journée merveilleuse, d'ailleurs, à cette thématique-là. Donc nous avançons tous les jours parce que nous semons, parce que nous y croyons. Et vous imaginez bien que la foi que nous avons dans ce vaccin, si on avait le sentiment qu'il était inutile, non, nous sommes en train de poser des graines. C'est un peu la logique du bambou, vous savez, quand vous semez une graine de bambou, la première année, il ne sort rien. La deuxième non plus. La troisième non plus. À la cinquième année, vous avez des plants qui sortent dans un périmètre de 50 mètres ou 100 mètres. C'est ce que nous faisons. Nous avons tous les jours des témoignages de chefs d'établissement qui nous disent « Dans l'établissement, depuis ce jour-là, tout a changé ».